Vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre 93.1. Philippe Benigni vous souhaite le bonjour et vous propose les jeudis littéraires. Les jeudis littéraires pour cette dernière de 2016 en direct.
Hein. Déjà, oui.
On vous accompagnera quand même les deux dernières semaines parce qu'on a quand même une richesse patrimoniale dans cette émission qui nous permet de retrouver comme ça des moments à travers les années dans les à peu près 3000 entretiens donc qui sont au capital. Là c'est... Des fois, le mot capital peut avoir un sens non péjoratif de cette émission. Alors, dans la première partie, eh bien, c'est Andreas Becker, bonjour.
Bonjour Philippe.
Qui nous propose de rencontrer Alessandro Mercuri, qui, on va prononcer en français, Alessandro Mercuri, donc, qui édite aux éditions Léo Cher et qui donc a publié Kafka Cola, Peeping Tom et Le Dossier Alvin. Mais celui-là, c'est peut-être pas chez Léo Cher d'ailleurs.
Non, c'est Harry Fiction.
Harry Fiction, voilà.
Harry Fiction en Suisse.
Donc, dans la veine donc, des découvertes que nous propose donc Andreas Becker. Voilà, je vous passe la parole, Andreas.
Merci.
À vous de recevoir.
Je suis particulièrement content aujourd'hui de recevoir Alessandro. Bonjour, Alessandro.
Bonjour.
Oui, ça fait un peu découverte. En même temps, comme on dit souvent, les petits éditeurs soulignent encore leur travail. Il y a des magnifiques pépites. Enfin, il y a vraiment des choses. Parfois, on se demande pourquoi ça n'a pas plus de public. Mais bon,
on fait ce qu'on peut. Léo Cher, pas tout à fait.
Non,
éditeur.
Hein,
il a vraiment pignon sur rue.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait Nathalie Reims qui était assez écoutée, qui l'est toujours d'ailleurs.
Pas trop ce que ça veut dire petit éditeur. Un jour, il va falloir qu'on invite les éditeurs.
Les petits éditeurs,
ça,
mais oui.
Pour discuter de tout ça. Bon, Alessandro, vous avez publié donc votre dernier livre chez Art et Fiction en Suisse. On avait déjà le plaisir d'avoir invité...
Pierre Esco,
merci, qui publie aussi dans cette magnifique collection qui est Repacifique. On va en parler dans la deuxième moitié de notre conversation, si on a le temps.
Oui.
On va commencer un peu dans l'ordre chronologique avec Kafka Cola, qui est donc publié aux éditions Léo Cher en 2008. Alors, j'ai un peu... c'est pas tout à fait facile à saisir le travail d'Alessandro. J'espère qu'on aura l'occasion de mieux cerner un peu ce travail qui est absolument extraordinaire parce que c'est un mélange de documentaire, de fiction, de rêverie, de sens et de non-sens. Et j'ai essayé un peu de vous expliquer un peu comment c'est fait. Donc il y a une très belle citation de Schrödinger, dans Peeping Tom, et qui nous explique la chose suivante. Si vous prenez un verre d'eau et vous marquez toutes les molécules qui sont dans votre verre d'eau, si vous avez la possibilité, évidemment c'est théorique, et vous versez cette eau dans la mer, n'importe où. Ensuite, vous mélangez toute l'eau du monde d'une manière homogène et vous puisez n'importe où un verre. Ben, vous avez toujours plusieurs centaines de molécules dans votre verre, de votre liquide initial. C'est absolument hallucinant. Donc, on peut... Donc dans un verre, tout se rejoint. Dans un verre d'eau, on a le monde, on a toutes les mers du monde. Et Alessandro
Je n'ai déjà pas compris, moi.
Il paraît que les baleines, quand les baleines chantent, quand les baleines discutent, quand elles parlent, il paraîtrait que le son est presque infini, qu'il s'arrête juste sur les continents.
Alors, je vous explique exactement comment vous faites pour les baleines. Pour les baleines, je ne sais pas. Mais pour votre art, vous prenez un verre d'art, vous versez dans la mer des possibles, vous mélangez d'une manière homogène et vous puisez un verre. Et partout dans ces verres-là, vous avez de l'art. C'est ainsi que vous piochez dans la mythologie grecque, dans la philosophie, dans le cinéma, dans la vie de tous les jours, dans la rêverie, dans l'imaginaire, et vous en faites des magnifiques textes. C'est un sens, c'est une façon de construire le sens ou le non-sens, mais où est le réel dans tout cela?
Oui, et le non-sens, il est en permanence, ce sens comptoie ce non-sens, parce que ce sont principalement des essais, des articles, il y a des textes de fiction, mais plus principalement des essais. Mais ces essais ont pour vocation aussi de générer des effets de fiction. Et donc, on n'est pas dans une approche d'essai au sens académique. Bien sûr, ce sont des essais littéraires, mais ils jouent beaucoup de leur propre médium d'essai. Vous parliez du fait de retrouver plein de choses, parce que oui, il y a du mélange, il y a beaucoup de détournements, de reprises d'éléments hétéroclites. Oui, il y a une approche assez hétéroclite, hétérogène des propos, qui fait que des éléments très disparates se mettent à se rencontrer de manière inattendue. Je crois que c'est ce qui guide un peu le travail, oui.
Mais il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup, c'est le nonsense. Donc, c'est mal traduit avec le non-sens. Mm. Donc, c'est quelque chose d'insensé, mais dans le sens positif du mot. Une aventure peut être insensée, ça veut dire, c'est quelque chose quand même qui vaut la peine d'être vécu.
Oui, il y a le signifié, le signifiant et l'insensé. Alors, et l'insensé se trouve où?
Mais
dans cette perspective linguistique, oui, c'est l'insensé parce que 35% du temps est passé à dormir, à rêver, et on est donc dans ce monde-là. D'ailleurs, le monde de l'endormissement, qui est souvent une épiphanie en un sens, parce qu'on est confronté à cet insensé, si le processus de l'endormissement a lieu au moment où on essaye d'avoir une pensée, et cette pensée se délite dans l'endormissement, et on a l'impression de retrouver finalement la pensée, cet insensé, mais qui est complètement ungraspable, qu'on ne peut pas saisir en fait. Oui. Et comme si en fait cet insensé était le magma fondateur de ce qui était sous le sens en fait. Les constructions signifiantes sont peut-être entièrement établies sur cette matière souterraine qui est insensée, que l'on retrouve dans ce rêve et dans le processus du passage de l'éveil au rêve, au sens où beaucoup de ces textes ont trait quand même à une dimension assez onirique aussi de recherche.
Oui et non, parce qu'en même temps, c'est hyper réel. C'est quelque chose qui est absolument incroyable, parce qu'au début, j'ai passé mon temps sur Internet pour vérifier l'effet de ce que vous relatez dans vos livres. Après, j'ai abandonné parce que tout est vrai. Mais vous racontez des histoires qui paraissent tellement invraisemblables qu'on se dit, ben non, c'est encore inventé. Donc je vais dans une main j'ai le livre, dans l'autre main j'ai le téléphone et je vérifie. Et chaque fois je tombe sur des choses vraies. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il y a sur Internet?
Oui, si vous pouvez prendre un cas, je ne sais pas s'il y a un cas, par exemple des histoires de magiciens.
Oui. Mais on est tellement décalé avec ce que vous écrites, ce que vous écrivez, qu'on ne sait jamais si on est dans le où on est, en fait. Vous êtes le maître du décalage, en fait.
C'est peut-être parce que le statut, les discours, la production des discours, on est dans une. On vit quand même dans une ère rationnelle, mais le mythe est là partout. Donc c'est peut-être parce que aussi on a eu tendance à séparer, à catégoriser les différents discours d'une certaine manière, de découper la réalité d'une certaine manière, alors qu'en fait, sous cette apparence de découpage, le mythe est là partout. En fait, on est en permanence dans une production de discours de mythe. Sauf que le mythe, aujourd'hui, oui, la mythomanie, du coup, donc beaucoup sont en asile psychiatrique, mais le propos insensé ou la chose invraisemblable, puisque les choses se rejoignent sur l'invraisemblance, et quand vous dites que vous êtes obligé de vérifier en un sens ce que vous lisez, parce que ce qui est rapporté, ce sont des événements ou des situations invraisemblables, oui, c'est tout effet d'invraisemblance en permanence.
Mais j'ai beaucoup parlé de ce qui est vraisemblable, ce qui ne l'est pas, parce que si on prend notre situation ici autour d'un microphone, autour d'une table comme ça, elle est parfaitement invraisemblable. si on avait pensé il y a 50 ans ou 45, je ne sais pas quand on était né, peu importe, qu'un jour on va se retrouver à Paris autour d'une table dans un studio, la possibilité est absolument est zéro. La probabilité est zéro que ça arrive. Pas zéro, enfin. Donc ça ne peut pas arriver. Or, ça arrive.
Oui, elle est zéro et puis la certitude est un. Et de toute façon, on va rentrer hein, dans, je ne sais pas dans combien d'années, mais cette idée des ordinateurs quantiques, quand on va rentrer dans ce monde. Parce que vous parliez des gouttes d'eau, de la mer et des gouttes.
Et vous, de baleines.
Oui. Et par exemple, vous pouvez mesurer le poids d'Internet. Je crois qu'ils ont mesuré, Internet pèse 50 kilos. 50 kilos. Cette information, ces milliards et ces milliards et ces milliards de données. Parce que oui, pour revenir à ce que vous dites sur le brassage en fait des données, c'est que c'est peut-être aussi une approche de travail littéraire, de big data en un sens aussi, de collecter cet océan, cette nature qui a été redoublée dans l'information, au sens où il y a un océan d'informations aujourd'hui. Et je pense que le travail a trait à ça aussi finalement, dans la multitude des informations et qu'est-ce qu'on fait de cette big data dans une approche littéraire en fait.
C'est ça. Mais 50 kilos c'est encore lourd parce que le cerveau ça pèse beaucoup moins et est encore beaucoup plus performant qu'Internet je pense.
Oui, il y a beaucoup d'eau dans le cerveau et Internet ne prend pas l'eau. mais je lisais des études qui ont été faites sur la mémoire à court terme des poissons rouges par exemple.
Ouais.
Et il s'avérerait que justement on rentre dans ce qui a été calibré à 2 minutes 30 pour le temps de concentration pour des chansons par exemple, le temps de concentration apparemment est en train de chuter drastiquement. On est rentré dans une nouvelle période.
Zapping.
Oui.
Oui, je m'attendais au pire avec cet entretien, parce que évidemment j'ai préparé les choses, mais je n'ai pas pensé au poisson rouge. Donc, et là,
oui,
je sais
on est
même
passé
pas.
De la baleine au poisson rouge.
Maintenant, je ne sais même pas comment on est arrivé au poisson rouge et je ne sais plus comment m'en sortir. Mais je m'attendais à vous.
Sortir du bocal.
Je m'attendais à ça. Donc, j'ai quand même une citation de votre livre, parce qu'il faut bien parler un peu de votre livre.
Oui, parce que c'est un peu abstrait, peut-être, oui.
Non, c'est pas abstrait, parce que vous mettez thèse et antithèse. Vous parlez beaucoup d'Hegel, ensuite de Schopenhauer dans votre deuxième livre, mais dans votre premier livre également. Et pour illustrer tout ça, vous avez cette magnifique idée de citer d'abord « Je pense tant que je suis » de notre cher Descartes. Et dans un deuxième temps, « Je est un autre ». Alors nous avons là une sorte de thèse et d'antithèse entre le rationnel et l'art, entre le rêve et entre l'éveil, entre le noir et le blanc, etc. Et vous faites une synthèse que je trouve magnifique. « Je pense, donc je est un autre ». Alors ça, évidemment, ça montre bien tout votre travail. Vous partez d'un constat soi-disant scientifique, rationnel, objectif, et vous nous décalez tout de suite dans l'irréel. Alors, pour illustrer un peu ça, vous avez choisi un peu de musique, et j'aimerais bien qu'on entende un morceau qui nous décale d'une manière extraordinaire.
Un morceau du Portsmouth Sinfonia.
Oui, il s'agit de quoi
De Also sprach Zarathustra, réinterprété donc de manière extrêmement sérieuse, extrêmement religieuse aussi, par le Portsmouth Sinfonia, qui a été cofondé par Gavin Bryars, avec beaucoup d'étudiants d'art, de musiciens, de compositeurs, qui malheureusement, à force de trop de sérieux, se mettent à jouer des instruments qu'ils ne maîtrisent pas.
Oui, je préviens nos auditeurs, ça ne dure que 1 minute 30, donc...
Pourquoi cette précaution?
Ben vous allez voir, Philippe. On y va?
Thank you.
Donc, on reconnaît parfaitement bien le morceau, mais c'est tellement décalé parce que c'est joué par des vrais musiciens, ouais. mais qui ne savent pas jouer.
Mais c'était l'intention première de Strauss, je crois. C'était d'être interprété par le Portsmouth Sinfonia.
Orchestra. Et donc, c'est comme ça que votre écriture nous décale. Comme ici, comme on entend quelque chose qu'on reconnaît parfaitement bien, mm-hmm. mais c'est joué d'une manière complètement fausse, donc il n'y a pas une bonne oui. note.
Fausse à votre goût.
Bah oui. Alors, c'est quoi le faux et le vrai? Donc, on revient à cette question-là. On est constamment.
La norme.
On est constamment.
Ouais. Bah, en anglais, d'ailleurs, c'est étonnant parce que la forge, forger, donc l'âge du fer, l'âge du bronze, Héphaïstos forge, et forgerie, en anglais. Peut-être en français aussi, mais forgery, c'est faire des faux. Et c'est étonnant, cette présence de la fabrication, de ce moment. Il y a quelque chose du monolithe de 2001 à l'Odyssée de l'espace, dans le passage de l'âge du fer et au métal. Et le fait que cette présence du forgery, parce que vous parlez du vrai et du faux, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, d'ailleurs, Donald Trump nous a permis de rentrer... là-dedans, tout ce qui a été appelé la post-truth politics, l'ère de la post-vérité. Et peut-être qu'on y a toujours été, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'elle se donne de manière plus explicite. Et voilà comment parler du big data, de l'océan de l'information aussi, précédemment. Cette post-vérité, parce qu'on pourrait dire que tout ça est de l'imposture, ce que je fais. Puisque si vous mettez le lecteur dans ces moments de doute et d'incertitude par rapport à la véracité des propos, et vous êtes obligé, vous-même, vous avez dit, d'aller vérifier ce qui est raconté. Donc, il y a le lard et le cochon aussi, hein, cette expression, prendre du lard pour du cochon. Donc, vous me parliez du vrai et du faux. Oui, il y a beaucoup de textes qui tournent autour de ça. Par exemple, cette rencontre de deux magiciens, de Mandrake le magicien, le personnage de bande dessinée, qui est le premier super-héros, d'ailleurs, de l'histoire, et qui lui-même est basé sur un véritable prestidigitateur.
Mais
qui s'appelait lui-même Leon Mandrake.
Mais il paraît que celui qui a inventé la figure de la bande dessinée ne connaissait pas l'existence de l'homme véritable.
Donc c'est un cas de synchronicité.
Il paraît, oui.
Voilà.
Ouais. Assez étonnant, parce que le nom déjà est assez particulier, il faut le trouver, etc.
C'est l'histoire de la goutte d'eau, quoi.
Oui, mais oui. Mais Philippe, vous allez lire ces livres-là, parce que après, une fois que vous avez lu ces livres-là, vous ne savez plus où est la réalité. Donc ce matin, j'avais peur de ne pas prendre que le métro, éventuellement, ne m'amène pas à la station. Parce qu'une fois qu'on a fini ces livres-là, on est tellement dérouté qu'on n'arrive plus à prendre la vérité comme telle.
Moi, je ne serais pas tellement dérouté, parce que comme je suis un peu plus du côté de l'imaginaire que de la réalité. Donc.
Oui, mais c'est inquiétant. D'une certaine manière, c'est inquiétant. Si on se dit, finalement, tout ce système de métro est peut-être quelque chose de complètement fallacieux ou inventé par Internet ou enfin par...
Parce qu'à nouveau, entre vous dites le vrai, le faux, et donc l'essai et la fiction, et c'est qu'on a séparé ces catégories, alors que les catégories étaient beaucoup plus floues.
Oui.
Tout le 18e mélange l'essai et la fiction. Et donc, ce qui est du relève et ce qui est dans le domaine de la fiction, ici, se retrouve en fait dans une approche non fictionnelle. C'est ça qui cause cette gêne ou ce trouble, en fait.
Ben oui, non, mais je suis tout à fait ravi d'être troublé. Donc c'est... Prenons, par exemple, la couverture de votre deuxième livre, Peeping Tom, donc Tom le Voyeur. Il y a sur cette couverture une gravure du, je ne sais pas exactement quel siècle, peu importe.
Fin 16e.
Fin de 16e siècle, bon. On voit donc un homme qui fait l'amour à une femme. Ça, c'est à peu près, si on regarde ça, on se dit, bon, il n'y a rien de particulier. Mais vous mettez, comme dans les images pornographiques des années, 80, 90, il y a une étoile, justement là où le sexe de l'homme s'enfonce dans le sexe de la femme. Et c'est justement cette étoile-là, en fait, ce décalage du regard qui rend l'image, on va dire, pornographique. S'il n'y avait pas cette étoile-là, En fait, ce décalage dans le regard, ben, il y aurait
on
juste...
On ne remarquerait rien.
On ne remarquerait rien du tout. On regarderait ça comme une œuvre d'art du XVIIe siècle, sans arrière-pensée, sans voir même qu'il s'agit, en fait, d'une image assez osée.
Oui, les étoiles sont extrêmement vulgaires.
Hein. Ben oui.
Parfois même, ces étoiles-là, on les donne comme des étoiles étincelantes, hein, dans le fait de masquer quelque chose. Alors que là, c'est une étoile rouge qui ne prend pas l'aspect resplendissant d'une étoile stellaire. Mais les étoiles des cieux sont utilisées aussi dans le cas de masquer les sexes. Et donc l'étoile rend la chose vulgaire. C'est l'étoile qui est vulgaire.
Et qui attire l'œil en même temps. Parce que c'est un peu comme ça sur les images interdites. En fait, ça attire l'œil là où ça se passe.
Voilà.
Et vous écrivez donc une très belle phrase dans ce livre. La vérité, c'est ce qu'on cache. Vous vous souvenez plus. Ah, mais moi, j'ai lu votre livre. Hein. Donc, c'est tout à fait ce qui est représenté par cette image-là. La vérité, c'est sous cette étoile-là. Évidemment, on peut fantasmer ce qui se passe. Et ce qui est fantasmé est beaucoup plus fort que ce qui est regardé. Donc, c'est un peu ça aussi, l'idée du cinéma. Donc, montrer ce qui est invisible.
Et puis, le montrer, le voir sans... les personnages du film ne peuvent pas voir les spectateurs dans la salle. Donc, voir l'invisible, parce qu'aussi, on le voit caché. Dites la vérité, c'est ce qui se cache. La vérité, elle avance masquée aussi. Mais c'est ce grand plaisir de pouvoir voir sans être vu aussi.
Oui. Et vous mélangez, je ne sais pas, vous avez travaillé dans le cinéma, vous mélangez les films série A, série B, Doctor Strange Love, je connais mal ce cinéma-là. Les James Bond, les films américains des années 50, des années 60, vous mélangez ça allègrement à la philosophie grecque.
Oui, Là, parce que vous parlez donc de Dr. Strangelove qui ouvre le dossier Alvin,
oui. Hein,
parce que oui. Ce livre suisse, donc au bord... d'ailleurs, les Suisses ont un fantasme de sous-marin, du fait de ne pas avoir de mer. Hein. Je crois que c'est ça qui les a intéressés. Mais ils ont exploré, d'ailleurs, il y a une grande exploration du lac Clément en sous-marin, contrairement à la mer morte, qui, elle, les sous-marins restent à la surface des eaux. Mais oui, nos amis suisses aiment bien les histoires sous-marines. Je dis ça parce que vous parliez de Dr. Strangelove et ce dossier Alvin s'ouvre sur une projection test du Dr. Strangelove, donc une projection avant la sortie du film. Et malheureusement, cette projection a été interrompue parce que, au même moment, alors que le film débute, Kennedy se fait assassiner à Dallas. Et la sortie du film est repoussée. Et c'est un cas où une projection anodine de film rencontre un événement historique, alors que ce film lui-même a trait à une réalité historique apocalyptique. Mais on s'avance peut-être trop dans l'autre
dossier Alvin. Non, parce qu'en fait, tout ça, dans vos livres, ça se tient. Parce qu'on peut sauter d'un livre à l'autre, parce que vous avez des magnifiques phrases. La réalité est une perception. Dans la perception, la réalité... La vérité est un sens interdit.
Mais ça, c'est la perception d'une réalité. Ça, c'est en fait, je m'amuse des discours marketing parce que c'est le discours de la manipulation publicitaire. En fait, ce livre-là, Kafka Cola, remixe beaucoup de discours, brasse des discours à la fois politiques. Il y a un index à la fin où les termes en italique sont tous des citations. Et donc, on passe de registres de différentes paroles, qu'elles soient politiques, publicitaires ou autres. Donc, cette chose-là n'est pas du tout de moi.
Non, mais si, c'est de vous parce que vous l'avez mis dans le livre. Parce que on est presque dans le collage. D'ailleurs, il faut souligner qu'à partir du deuxième livre, le Peeping Tom, vous mettez beaucoup d'images aussi dans vos livres. Et avec les images, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait déjà dit, et sur les textes et sur la musique. On pense que c'est du vrai, mais c'est une sorte de preuve. Mais évidemment, l'image ne prouve rien. Et en plus, vous faites aussi des collages dans ces images. Donc, vous faites des collages dans le texte, vous faites des collages dans l'image. Et donc, c'est cette technique-là qui vous permet aussi de mettre les slogans publicitaires.
Voilà, tout à fait, oui, oui. C'est ce collage-là, comme vous dites. D'ailleurs, le livre Peeping Tom s'ouvre par une citation de Polyphème de Sicile, hein, qui est un grand philosophe grec de la Grande Grèce, hein, sicilien. C'est un de ces rares textes qu'on a retrouvé. Hein, on a moins de choses de Polyphème de Sicile que d'Héraclite. Hein. Donc on a de très très courts fragments, vraiment infiniment courts, très très peu de choses. Et Polyphème de Sicile aurait écrit par exemple « Créature mortelle et fugace, l'homme ne pouvant être voyant doit être voyeur. » Et sous cette citation de Polyphème de Sicile, se trouve une citation de George Bush, et j'en parle parce qu'il y a beaucoup d'images dans le livre, et George Bush a eu cette phrase extraordinaire, donc en anglais bien sûr, il dit « One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures. » Une des très grandes choses dans les livres, à propos des livres, c'est que parfois il y a de très belles images.
Il a aussi une autre très belle phrase, George Bush, que vous citez aussi. Je pense que finalement, les hommes et les poissons peuvent bien vivre ensemble.
Coexister, oui. Oui. C'était une des grandes moments d'épiphanie
j'ai pas
de
encore
sa présidence. Je ne sais pas dans quel cadre il a sorti cette phrase. Ouais.
Je la médite depuis 3 jours. Je n'ai pas encore bien compris le sens.
Oui, il y a une dimension surréelle, souvent de la parole de Bush.
Oui. Mais dans la vôtre aussi, heureusement.
Oui, oui, oui. Butch qui s'est mis à la peinture, d'ailleurs.
Oui, il fait des tableaux texans maintenant. En fait.
Oui, alors il n'est pas dans le nouveau réalisme texan. Et il est, c'est du sous-sous Hockney par certains aspects. C'est assez étrange d'ailleurs. Et parce que George Bush a pris des cours de peinture. Et je crois qu'il a raconté, il a demandé à sa professeure, c'était une femme, il a dit qu'il fallait que cette professeure, comme dans l'étape d'accouchement des esprits, qu'il avait un Rembrandt en lui, et qu'il fallait que cette professeure sorte ce Rembrandt qui était en lui, voilà.
Bah, on ne l'a pas encore vu, enfin moi je n'ai pas encore vu le Rembrandt qui sommeille
en
bouche.
Il y a une exposition Buffet au Musée d'Art Moderne, oui. Donc ouais. Il pourrait y avoir une exposition de George Bush aussi, ça ne dépareillerait pas forcément.
On aurait mieux aimé qu'il embrasse sa carrière de peintre que celle de président et devenir un criminel contre l'humanité.
Voilà, c'est la même chose si Hitler aurait dû continuer ses études d'art.
Je ne voulais pas trop aller sur ce versant-là parce qu'on pourrait interpréter assez facilement vos livres comme une critique de la société moderne. Et je trouve... Ce sera un peu donner une dimension un peu trop facile à ce que vous écrivez, parce que dans Kafka Cola, ça, évidemment, vous faites une critique de la télévision, et d'une phrase, ça, c'est beau, comme une variation de toute votre œuvre à TF1, nous vendant du temps disponible du cerveau humain à Coca-Cola.
Oui, on n'est pas dans une approche sociologique du propos, en fait. On est beaucoup plus proche de quelque chose qui n'est pas si présent que ça en France, finalement, mais on est beaucoup plus proche de la façon dont Andy Warhol pourrait reprendre ce type de proposition, et d'en jouer aussi, hein, parce que chez Warhol, on peut dire qu'il y a une critique, mais il y a aussi une fascination, une dimension poétique de cette consommation qui dépasse l'approche critique. C'est vrai qu'on est souvent on est limité dans cette approche critique. Moi, je prends cette phrase comme une sorte d'anti-aphorisme, en fait, parce qu'elle a fait tellement parler d'elle. Et au-delà, bien sûr, qu'elle est critiquable, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que si c'était Badiou qui avait prononcé cette phrase, ça n'aurait pas du tout été le même impact, ce qui prouve la... À quel point le propos est relatif. Et à quel point, oui, il dit quelque chose de vrai. Et que pourquoi cette vérité choque tant? Parce que lui, il a dit. Il y a quelque chose d'assez cocasse dans toute cette perspective. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, oui, qui tourne autour du cocasse, du picaresque aussi, du grotesque, de la caricature. Ça joue beaucoup autour de ça. Et ça se veut ludique aussi. Et je pense que être ludique, c'est quelque chose de très sérieux aussi, c'est important. Et on pense que c'est, ça peut être ridicule ou extrêmement superficiel ou enfantin. Et je pense qu'au contraire, c'est plein de ressources.
Ah ben oui, non mais c'est évident que le rire, c'est pas du tout un rire, enfin, ça fait du bien de rire, en fait, c'est pas, faut pas... Mais rire ouvre une porte justement vers, pourquoi pas vers l'enfance, vers l'imaginaire, vers l'imagination, vers cet état où tout est possible, c'est, dans vos livres tout est possible, vous sautez... De 20 siècles et de milliers de kilomètres en une phrase. Enfin, c'est tout, vous faites des liens, vous créez des liens là où on a d'habitude de séparer les choses. Donc,
Oui, parce que tous les processus analytiques de rationalisation sont basés sur une efficacité par la division, comme la division du travail, la division des pensées presque.
Voilà.
Qui sont très efficientes et qui sont très importantes. Mais comme tellement de gens s'en chargent, autant aller là où moins de gens se rendent.
Ouais. Et comme ça, vous nous embarquez, en fait, dans un voyage. Vos livres, c'est comme un labyrinthe où on est pris à la main et un peu guidé comme ça à travers ce labyrinthe. Donc ça commence avec cette critique de la télé. Mais si c'était juste une critique de la télé, ce serait donné une importance à la télé qu'elle ne mérite pas. Et à partir de là, vous nous entraînez, comme dans Peeping Tom, dans un voyage comme ça, à travers des siècles et des philosophies, des rêves, des sens, des non-sens. Et avant d'aller au dossier Alvin, j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause musique. Qu'est-ce que vous nous proposez, Alessandro
Alors,
Mercury?
Alors, nous allons écouter un extrait d'une pièce de Luc Ferrari de 1977, Et tourne les sons dans la garrigue, interprété par l'ensemble Laborintus.
LRFM 93.1, on est en compagnie d'Andreas Becker qui reçoit...
Alessandro Mercuri, voilà. Donc, pour deux livres qu'on a un peu effleurés, mais que je vous conseille vraiment de lire, c'est Kafka Cola et Peeping Tom chez Léo Cher. Et là, on va parler donc du dossier Alvin.
Alvin, oui.
Alvin, pardon, oui. Publié au... Pardon ?
Alvin Toffler ?
Non, juste Alvin tout seul, oui, c'est le petit nom du submersible, oui.
Oui, qui est très mignon, qui en fait a une gueule d'ange. C'est, donc ici, contrairement aux deux autres livres, ce n'est pas des chapitres, des essais, c'est une histoire. Moi, j'ai lu ça comme un roman d'aventure autour de ce Alvin.
Oui, il y a un petit côté roman d'aventure, Jules Verne va mieux sous les mers, sauf que le Nautilus est un sous-marin de fiction, alors qu'Alvin est un véritable sous-marin. Et c'est une enquête, véritablement aussi. Donc ça peut se prendre comme un roman, mais c'est une enquête, entre guillemets, documentaire, qui est partie de... j'avais vu passer dans la presse la découverte, parce que c'est extraordinaire, il y a plein de... C'est triste, mais il y a beaucoup de créatures qui disparaissent, hein, tous les jours, toutes les secondes, mais on en découvre aussi de nouvelles, on en découvre beaucoup moins... que le nombre incalculable de créatures qui disparaissent. Et donc, cette créature qui avait été découverte, c'est un arthropode un crustacé, donc créature des abysses, qui ressemble, qui a été découverte dans les années 2000 et quelques, et qui ressemble à une sorte d'araignée de mer, qui a des avant-bras de pinces démesurées, et recouverte entièrement de poils comme de filaments de soie. Donc, c'est une créature complètement qui paraît extraterrestre, et donc elle a été baptisée puisque cette créature, il a fallu la nommer. Elle a un double nom qui se réfère au poil, c'est à cause de ses avant-bras poilus, de ses pinces poilues. Elle s'appelle Galatée Yeti, donc Yeti, l'abominable homme des neiges, qui est poilu parce qu'il fait froid dans ces glaciers étranges. Galatée Yeti ou Kiwa Hirsuta. Hirsuta, elle est hirsute également. Et donc, à partir de cette découverte de cette créature, je me suis rendu compte que c'était au cours d'une mission de l'IFREMER, hein, donc le centre de recherche de la mer français, et créature des abysses, donc dans les eaux très profondes, qui a été découverte à bord de ce submersible Alvin. Et de fil en aiguille, j'ai accédé à l'intégralité des missions du submersible, qui figure en fin de livre, hein, il y a plus de 5000 missions, et ces missions sont répertoriées avec des coordonnées, longitude... latitude et des lieux, des dates, des durées de plongée. Mais ce qui est très troublant, c'est que parmi les premières plongées, j'ai vu qu'elles avaient lieu dans une zone dans l'océan Pacifique, et en regardant les longitudes, soi-disant, c'était une plongée au large de Argus Island, l'île Argus, et en regardant sur Google Earth, il n'y a aucune île.
Ah oui.
Comme si l'île avait disparu ou qu'elle n'avait jamais existé. Et c'est à partir de cette île mystérieuse que le projet a pris forme, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce submersible qui avait découvert ce charmant crustacé est en fait un submersible de l'armée américaine qui a pris part à certaines des missions les plus secrètes de la guerre froide. Et cet Argus Island, c'est une base militaire secrète submergée de l'armée américaine. Et donc ce récit, d'où cette enquête, puisque moi j'étais confronté à des archives déclassifiées, j'ai vraiment mené une enquête. Alors certains organismes ont accepté de m'ouvrir leurs archives, d'autres, par exemple, il y a les centres de commandement nucléaire... ne vous répondent pas, n'ont pas intérêt à vous répondre, puisqu'il y a beaucoup, il est beaucoup question de bombes atomiques aussi, perdues dans les flots, qu'Alvin a récupérées. Mais le projet se construit aussi autour de ces archives qui sont déclassifiées, hein, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces données tombent dans le domaine public. Et donc, c'est véritablement une enquête comme un détective au cœur de la guerre froide et de ces activités militaires auxquelles a pris part le submersible, donc à la fois des activités militaire secrète, mais aussi une exploration de la faune et de la flore des abysses.
On n'est pas obligé de vous croire.
Non, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est vrai. tout cela est vrai, hein. Tout cela est corroboré, les informations existent, hein. L'Institut océanographique donne ces informations, hein. Il y a des carnets de plongée. Il y a toujours, alors on pourrait dire qu'il y a toujours des carnets doubles, hein. C'est comme la comptabilité.
Ben oui.
Par exemple, Al Capone est tombé sur ses comptabilités. Mmh. L'idée est toujours de chercher le vrai
carnet
le vrai carnet comptable, en fait, hein.
Ben oui.
Donc vous pourriez imaginer que ce carnet de bord est faux et qu'il y a des missions qui n'y figurent pas. Mais c'est quand même extrêmement surveillé, hein. Il y a vu la multitude des missions.
Mais le livre commence pas comme une enquête, le livre commence comme un film au cinéma, interrompu.
Oui, ce dont nous parlions sur cette projection, voilà. De Dr. Strange.
Et c'est Love. Comme si vous racontiez ensuite un film. Donc on n'est pas. Donc vous dites plusieurs fois c'est vrai, c'est véritable, c'est tellement réaliste que vous mettez 25 pages avec des coordonnées, des plongées, etc. Vous mettez des photos, vous mettez des documents, et on ne peut pas se défaire complètement du soupçon que tout cela est parfaitement inventé.
Ben oui, de toute façon, c'est une grande période de paranoïa et de fiction, cette guerre froide, hein, de contre-information, j'ai oublié les termes, de désinformation et d'information en permanence, de création de récits. C'est le grand storytelling de la guerre froide.
Hein. Mmh. Ben on y est toujours dans le storytelling, et de plus en plus.
Et dans de nouvelles guerres, oui.
Dans des nouvelles guerres, dans des armes inventées qui n'existent pas pour justifier des guerres. On est dans beaucoup de complotistes, enfin, qui pensent que le 11 septembre n'a jamais existé, ou c'est la CIA qui a tout mis en place, enfin... On est constamment confronté justement à cette question-là. En plus, aujourd'hui, plus on a d'informations, on va dans n'importe quel bar, on a la télé qui nous met des chaînes en permanence avec de l'information. Donc on a de l'information partout, mais on ne peut plus rien vérifier. Ou on pouvait peut-être jamais rien vérifier. Vous nous mettez toujours devant cette question-là.
Oui, et puis quand vous parliez de prendre quelqu'un par la main pour l'emmener dans un labyrinthe, non pas pour le laisser tout seul dans le labyrinthe, non pas se morfondre, parce que la personne recherchera plutôt à s'en sortir. Ouais. Il suffit en fait de toujours suivre le même, toujours tourner à droite par exemple, à moins que ce soit un labyrinthe qui bouge, évolutif. Mais l'enquêteur se perd aussi souvent, c'est le propre du film noir, c'est que le chemin de cette narration... tout le monde s'y perd, puisqu'il y a le propre de la fiction, c'est comme dans le cauchemar ou le rêve, c'est de se retrouver par ce chemin obscur dont on a perdu la voie droite, et on se retrouve dans cette forêt, en fait. Et c'est le cas de... Oui, il n'y a pas de vue omnisciente, tout ça, bien sûr, est depuis longtemps terminé.
Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce Alvin, c'est comme une figure de bande dessinée. Hein. Il a des grands yeux, en fait, ça ressemble vraiment à...
Oui, il
est
très anthropomorphe, zoomorphe. C'est étrange, c'est presque comme un dessin animé de Pixar, ces véhicules, ces engins anthropomorphisés. Le fait qu'il ait cette jolie bouille alors qu'il est, il prend part à des choses extrêmement, extrêmement secrètes, hein, extrêmement troubles aussi.
Il participe à une aventure dont j'ignorais tout. Il y a des Américains qui ont perdu 4 bombes atomiques au-dessus de l'Espagne.
Oui, ça fait partie de ces incidents nucléaires, de cette histoire des erreurs. C'est une comédie des erreurs aussi, hein, ça tourne beaucoup autour de ça. De bombes qui ont explosé sans exploser, de bombes... Donc il s'agit en fait d'un exercice nucléaire qui reprend exactement le type d'exercice qui ouvre le livre du Dr. Strangelove, hein, parce qu'il n'y avait pas d'envoi de missiles à l'époque, les bombes atomiques étaient aéroportées, et donc un incident nucléaire qui reprend un incident d'avion, et ces bombes, 4 bombes tombent, 3 tombent au sol, donc des kilomètres cubes de terre irradiée quand même, qu'il a fallu ramener aux États-Unis. Mais une une tombe dans les eaux de la mer Méditerranée, un pêcheur la voit tomber devant lui, et Alvin part à la recherche. C'est comme ça qu'Alvin a commencé sa carrière, ses missions militaires, à la recherche de cette bombe atomique. C'est quand même extrêmement gênant de perdre une bombe atomique de la sorte.
Ah oui, et donc j'ai vérifié sur Internet. Mais on vérifie tout sur Internet aujourd'hui, on pense que c'est parce que c'est sur Wikipédia que c'est vrai, et... j'ai encore quelques doutes sur cette histoire quand même atomique perdue dans la mer Méditerranée.
Elle est très documentée, cette histoire.
Elle est très documentée. Oui, oui. Bon. Ensuite, Alvin donc, découvre une île qui n'existe pas.
Lui participe à l'élaboration de cette île qui n'existe pas. Alors c'est tellement troublant, et là sur Internet j'ai eu la chance de rentrer en contact avec un monsieur qui est à la retraite mais qui a passé son enfance dans cette zone caraïbe, et un jour il est parti sur sa petite embarcation et il a photographié cette île. Et alors qu'il y a extrêmement peu de photographies, il a eu la gentillesse et la générosité de me permettre d'utiliser ces polaroïdes qu'il a pris. Et c'est assez étonnant de voir cette île surgir, cette île qui a disparu, et ces images qu'il lui-même avait mis en ligne sur un compte Google qui lui-même a disparu. Donc les choses sont tellement éphémères et apparaissent et disparaissent de manière très étrange. Et donc c'est une île... C'est une île qui a été emportée par un ouragan aussi, qui a dû fermer, une île de recherche.
Et en réalité, c'est une île artificielle que...
Bâtie sur un atoll, en fait.
Voilà, sur un atoll que les Américains avaient mis en place pour tester la résistance des humains sous les eaux, en fait.
Oui, et puis pour des radios de télécommunication, des sondes, des radars, pour repérer d'autres sous-marins soviétiques, oui.
Et c'est au cours de cette mission-là que, un peu par hasard, on découvre donc cette crustacé, non ?
Le crustacé, c'est bien plus tard.
C'est plus tard.
Oui, oui. Mais ça a changé, hein. Le crustacé, lui, existait déjà.
Oui, bien sûr. Bon, après, Alvin, il participe à l'exploration du Titanic.
Oui.
Mais vous dites que ça, c'est juste un prétexte, en fait, pour une mission, là aussi, secrète.
Oui, il y a quelqu'un qui a révélé ça. Je crois que c'est peut-être un ancien agent qui a révélé ça à la presse anglaise sur le fait que cette mission... Donc, Alvin est le premier submersible à avoir...
vu.
Oui, à avoir fait une mission de recouvrement, pas de recouvrement, mais de redécouverte du Titanic. Hein. Et en fait, cette mission-là en cachait une autre... de recouvrement d'autres sous-marins qui avaient sombré dans les flots d'incidents industriels militaires catastrophiques avec tout l'équipage noyé. Et en fait, oui, l'investigation du Titanic permettait de cacher d'autres recherches de navires. Tout ça est documenté à nouveau.
Ouais. Et donc, finalement, ce Alvin, il existe toujours. En fait, j'ai regardé, il a fait encore des plongées très récemment.
Oui, 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 il continue. Alors, depuis la publication du livre, le sous-marin continue à arpenter les fonds. Donc, il a un port d'attache. Oui, parce que la particularité de ce submersible, c'est qu'il est la propriété de la marine de guerre des États-Unis, mais il est opéré par un institut océanographique.
D'accord.
C'est un peu comme aux États-Unis, Chomsky qui enseigne à MIT avec la liberté qu'il a, et en même temps MIT, c'est là où sont recrutées toute l'ingénierie militaire et secrète américaine. Donc on est dans cette, je sais pas si c'est une contradiction, un paradoxe et autres, mais les choses sont extrêmement mélangées. Et donc Alvin alterne différents types de missions. Vous parliez de la bouille d'Alvin et de l'anthropomorphisme d'Alvin. Par exemple, le laboratoire de recherche, l'Institut océanographique, quand il m'a ouvert les fonds iconographiques, il y a des choses étonnantes. Par exemple, il y a un espadon un jour qui a embroché le submersible. Donc un espadon, on imagine bien le rostre de l'espadon, et il s'est enfoncé dans la coque du navire. Et très étrangement, il s'enfonce juste au niveau du hublot. Parce qu'on parlait d'anthropomorphisme, comme si cet espadon avait vu une créature sous-marine aussi.
Ouais.
Vous imaginez la vitesse de nage, de déplacement d'un espadon sous l'eau qui vient s'encastrer et donc qui crée une avarie aussi du submersible. Et donc on voit véritablement cette image hein, de cet espadon quand le navire est remonté à la surface, hein, donc en panne bien sûr à cause du choc de l'espadon. Bien, vous voyez donc cet espadon qui a essayé de pénétrer, qui a enfoncé son épée, son rostre dans la coque du navire.
Voilà. Donc vous nous racontez cette histoire d'Alvin qui est très attachant, ce petit submersible. Et vous êtes absolument capable de nous parler en même temps de la mythologie grecque, des mythes modernes, du bouddhisme et de Cervantes qui est passé par là où les bombes atomiques sont tombées quelques siècles beaucoup plus tard.
Oui.
Donc il faut souligner ce livre. C'est un peu comme dans les deux livres dont on a parlé auparavant. Vous mélangez aussi le passé, le futur, parce que vous parlez à un moment donné des années à venir jusqu'à l'année 9000, quelque chose comme ça. Et vous avez une très belle image vers la fin de ce livre qui m'a remis le doute. C'est une plongée de sous-marin dans le corps humain. Et là, de nouveau, en fait, la perception de la réalité change complètement. C'est comme si on plongeait en soi-même.
Oui. D'ailleurs, il y a des médicaments téléguidés maintenant déjà.
Ah oui.
Comme des petits sous-marins en vous qui se promènent.
Ou des caméras qu'on introduit dans le corps pour voir ce qui se passe à
l'intérieur
du corps.
Oui.
Donc, ces livres-là, vous avez compris, parlent de poissons rouges, de baleines, de submersibles,
de
l'espadon, de sirènes, de la philosophie, de quoi d'autre? Des rêves?
Oui, avec des images. Il y a beaucoup d'images dans l'ouvrage. C'est des images qui viennent documenter le propos, parce que le propos est tellement invraisemblable que les images sont là comme élément de preuve aussi.
Oui, mais là aussi, on a quelques doutes parce que vous mettez là aussi des magnifiques collages. Donc c'est une ouverture, je dirais, c'est une magnifique ouverture d'esprit. Quand on a lu ces livres, on voit le monde un peu décalé, un peu pas plus tout à fait pareil. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté ces livres, Alessandro Mercuri.
Merci.
Et je pense que vous nous avez encore préparé un peu de musique.
Qu'est-ce qu'on va... On va entendre... On peut passer plutôt au quatrième morceau, une répétition du prélude au troisième acte de Tristan et Iseut, Carl Böhm, donc le quatrième morceau, 1966.
Bien. Parfait. Merci beaucoup, Alessandro.
Merci.
Bientôt.
Merci.
Piano steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, der siebte Tag, wo gedehnt, ich halte nicht sehr stark zurück für die ersten, zweiten. Und dann ganz leise weggehen, jetzt weggehen wir weg. Die ist schon längst weg. Jetzt war's gut. Que tem bisschen patarati. Das heißt ja gedehnt, geht nicht rasch. Also ich bin sogar rascher als den Takt gleich. Den hören wir. Sie spielen Tari statt Tari. Ist ja zu schnell. Nochmal. das dritte Horn weich übernehmen, gell? Auf drei. Jetzt war das gut, hier. Darf ich bitte noch mal? Ich muss auf drei stehen bleiben, weil die Bläser haben. Sie müssen aber weggehen. Sie haben ja nur eine Achtel. Sie bleiben liegen. Nicht? Liegen bleiben nur die. Es sind zwei Fermaten, eine auf zwei und eine auf drei. Und sie bleiben immer stehen. Ich kann ja nicht, ich muss ja, es sind sogar drei Fermaten, zwei, drei und vier. Gell? Also den Takt bitte. Den letzten, gell? Den mit drei Fermaten. Ist klar, ja? Es kommt immer ein bisschen zu spät, die achte Note. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn. So, ja. Jetzt ist gut. Sonst kommt es nicht melodisch, wie sie sind, die achte Note. Jetzt ganz unmerklich weggehen die Bässe. Oh.